Québec. Je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Laura Bois, chargée de projet aux événements à la direction de la programmation culturelle. Alors, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui la première d'une série de conférences en lien avec le projet « Histoire de la région montréalaise, des origines à nos jours », mené par l'INRS, Urbanisation, Culture et Société. Soulignons que BANQ collabore au projet en fournissant de l'aide professionnelle et en facilitant l'accès aux sources iconographiques et photographiques, aux archives et à l'ensemble des documents d'intérêt pour l'histoire montréalaise. BANQ travaille également au rayonnement du projet, notamment par la présentation de cette série de conférences. Nous recevons aujourd'hui messieurs Danny Fougère, ici, Normand Perron, à sa gauche, et la rencontre est animée par Gilles Sénécal. Bonjour. Tous trois sont de l'INRS, Urbanisation, Culture et Société. Il y a une période de questions qui pourra suivre les échanges, de là les micros. Alors, il faut profiter de l'occasion pour échanger. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer l'entretien que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail de BANQ. Maintenant, je vous remercierai d'éteindre toutes les sonneries possibles, les téléphones cellulaires, et je vous souhaite à tous une excellente rencontre.
Oui, merci. Alors, mon nom est Gilles Sénécal de l'INRS. Simplement, pour la suite des choses, je vous présente deux historiens, Normand Perron, qui est le directeur du chantier des histoires régionales. Hein, c'est toute une collection qui date des éditions de l'IQRC, maintenant des presses de l'Université Laval. Et Danny Fougère, qui est aussi historien, chercheur à l'INRS et qui coordonne le projet d'histoire de Montréal.
Oui, je vais prendre deux. Monsieur, bonjour. Monsieur Perron va parler en premier, mais je vais prendre deux petites secondes pour mettre en situation notre projet d'histoire de la région de Montréal, ou d'histoire de la région montréalaise. Donc, Monsieur Perron dirige ou est responsable des chantiers d'histoire régionale de l'INRS, Urbanisation, Culture et Société, qui datent des années 1980, les premiers projets. Donc, pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, vous avez vu l'histoire de la Gaspésie, les Laurentides, ainsi de suite. Histoire de Québec ou de la région de Québec est sortie à l'automne passé. Présentement, sous presse, il y a l'histoire de la Naudière, viendra l'histoire du centre du Québec. Donc, vous voyez, M. Perron gère les chantiers d'histoire régionale, qui veut faire l'histoire de l'ensemble des régions du Québec. Maintenant, nous, notre projet d'histoire de la région montréalaise, de manière pompeuse, je dirais que c'est le plus gros des chantiers. C'est pas surprenant, la moitié du Québec se retrouve ici. Histoire régionale ou histoire de la région de Montréal a débuté en 2005 et nous espérons, nous comptons et nous arriverons à publier en 2011. Heureusement, c'est un projet motivateur et intégrateur. Il y a 26 auteurs de toutes les universités de la région montréalaise qui participent au projet. Et certains auteurs aussi du milieu collégial. Donc, vous voyez, c'est un projet rassembleur. Et voilà, c'est un projet qui est divisé en trois parties. Et grâce à la Grande Bibliothèque, nous pouvons donc commencer un peu à divulguer ou à présenter certains de nos résultats. C'est en chantier, mais au moins, ça permet un peu d'aller sur le terrain, si je puis dire, pour présenter un peu où sont nos recherches, où est-ce que nous en sommes. Voilà, merci.
Sans plus tarder, je vous présente Normand Perron, qui est donc historien, professeur à l'INRS, Centre Urbanisation, Culture et Société. Et le titre de sa communication, Montréal et son environnement continental.
Alors, c'est un titre très large ou général. L'objectif est simplement de situer Montréal à l'échelle de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça signifie dans son histoire, dans ses origines, dans son développement jusqu'à récemment? Je n'entrerai pas dans les détails. je ne donnerai que des grandes lignes. On verra aussi à travers tout ça un peu l'interaction des humains avec cet environnement à diverses époques. Okay. Alors, je commence par une carte générale sur le Québec. Ça vous permet de, bon, d'abord de se rappeler qu'on est entouré, comme bon, Montréal est ici. On a la plaine du Saint-Laurent qui est ici, qui s'est formée il y a environ 400-500 millions d'années. On a le bouclier canadien ici. Ici, la province géologique de Grenville, qui est au sud du bouclier canadien. Le bouclier canadien compte parmi les roches les plus, ou sinon les plus anciennes de la Terre. Le bouclier ici s'étend évidemment de Terre-Neuve ou du Labrador, si vous voulez, jusqu'à poursuit. Quant à la plaine, c'est vraiment à la hauteur de Québec qu'on commence à s'en rendre compte ou qu'elle est davantage perceptible et elle s'élargit en direction de Montréal. Elle s'élargit un peu sur la rive nord jusqu'aux Laurentides et également davantage sur la rive sud en direction des Appalaches. C'est le territoire. Ce qui est intéressant à retenir dans ces premières minutes, c'est la localisation de Montréal au cœur d'une plaine, finalement. Quant au réseau hydrographique, on connaît le dominé par le Saint-Laurent, jusque dans la région des Grands Lacs. Ce qui est intéressant dans le cas de la région de Montréal ou de Montréal, je dirais même d'avant Montréal, à l'époque amérindienne, c'est que le lieu est situé sur un axe majeur de communication par le haut. Il est tout près de la rivière des Outaouais et également tout près de la rivière Richelieu qui permet de descendre vers le sud et le lac Champlain. C'est aussi c'est une région qui... ici, vous avez les provinces géologiques, ce que j'ai montré un peu plus tôt, là, identifié de façon schématique. C'est une région, Montréal et sa plaine, qui compte les meilleures terres du Québec et qui aussi est favorisée par un bilan radiatif très favorable. En degrés jour, par exemple, vous voyez ici, on a 3250 degrés jour en ce qui concerne la région de Montréal. Alors que déjà à Trois-Rivières, on est descendu à 2750 jusqu'ici à Québec. Vous voyez, le bilan radiatif, par exemple, suit en grosso modo le long de la rivière des Outaouais jusqu'aux Appalaches. Ce sont les conditions les plus favorables pour l'agriculture au Québec. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, à l'époque des premiers explorateurs, comme Champlain et Cartier même, on avait remarqué ces avantages-là en ce qui concerne la plaine. Cartier, par exemple, avait noté que les Indiens, que les Amérindiens de la région de Montréal, connaissaient la culture du maïs, ça donnait au défrichement, ce qui était complètement différent pour les Indiens ou les Amérindiens de la région du Saguenay. Déjà là, on voit les avantages d'une région plus favorable au plan climatique. Champlain avait noté également ces changements. Il dit, pour lui, le beau pays du Grand Fleuve, il commençait dans les environs de Québec pour se poursuivre le long du Saint-Laurent, sur le Saint-Laurent. C'est assez intéressant, sa remarque, c'est que, évidemment, ces navigateurs-là, pour se rendre à Québec, remonter le Saint-Laurent. Il avait observé les côtes, en particulier la côte nord du Saint-Laurent, côte nord et la région actuelle de Charlevoix, où on avait noté des conditions plutôt difficiles d'accès, où on avait noté les montagnes, et même nommé les lieux d'une façon assez intéressante au plan toponymique. Par exemple, on a le cap Corbeau, le cap Tourmente. Ça rappelle finalement une certaine peur ou une certaine inquiétude ou un côté un peu repoussant des lieux. On connaissait aussi les dangers de la navigation qui faisaient qu'on jugeait assez sévèrement. Tout ça pour dire également qu'à un moment donné, on a donné à cette région-là on l'a nommée la terre de Caïn. Alors, ce qui est vraiment complètement différent ou opposé à la perception qu'on avait de la plaine. Sur la plaine, évidemment, ce n'est pas une plaine défrichée à l'époque, mais les explorateurs savent quand même reconnaître un territoire où il y a une plaine. C'est assez intéressant aussi, c'est que la plaine, bon, c'est un milieu plus facile pour les humains, et c'est un milieu, évidemment, qui est plus facile pour les communications et les échanges. Alors, les premiers établissements, bon, vous avez ici la carte de l'Empire français à son extension maximum. Alors, les Français ont colonisé ici en Acadie, ici, le long de la vallée du Saint-Laurent. On a occupé le territoire progressivement, quelques seigneuries au début. Puis petit à petit, finalement, c'est un long ruban qui... les terres sont à peu près occupées tout le long du Saint-Laurent, surtout entre Québec et Montréal au début. Le choix des Français, il relève, je dirais, d'une stratégie militaire, d'une stratégie commerciale, et un peu d'un certain côté d'une stratégie religieuse, lorsqu'on a décidé de fonder Montréal. En fait, ce qu'on voyait de Montréal, c'est un peu la même chose ou un peu une continuité de ce que les Amérindiens faisaient depuis longtemps. On avait fait de Montréal un point de rencontre. Pourquoi Montréal? Bon, je vous l'ai dit un petit peu tantôt, on est sur l'axe du Saint-Laurent, on est tout près de la rivière des Outaouais, on est près des rivières, de la rivière Richelieu. C'était aussi un lieu de passage avec un arrêt obligatoire. On connaît l'histoire des rapides de la Chine. Donc, c'était un portage, donc un lieu forcément d'arrêt. Les Français ont connu les mêmes problèmes, ont connu évidemment les problèmes de navigation, surtout avec les voiliers, en arrêtant à Montréal. Par contre, ils trouvaient le site intéressant, entre autres, pour ses capacités à recevoir des bateaux, pour le mouillage des navires, entre autres. C'était un site qu'on pouvait défendre aussi un peu plus facilement. Comme on avait affaire aussi, on était dans... C'est un portage ou un portage obligatoire. Bon, on aurait pu penser que le portage aurait pu se faire du côté plus au sud, Longueuil, que sur le côté de l'île lui-même. Mais c'était beaucoup plus simple du côté de l'île parce que plus court. Et en plus de ça, sur le côté sud, il y avait des zones marécageuses qu'à l'époque, on appelait d'ailleurs mouille-pied, dans les environs de Brassard, je pense, entre autres. C'est ce qu'on voit aussi pour Montréal, le choix des Français et leur préoccupation commerciale, c'était que, bon, Montréal était un peu, si vous voulez, le terminus pour le peuplement dans la vallée du Saint-Laurent, pour différentes raisons, des raisons de sécurité, mais aussi des raisons qu'on ne voulait pas aller beaucoup plus loin parce que la colonisation repoussait les animaux à fourrure, entre autres. Alors, c'était un territoire dont on a longtemps bloqué la colonisation à l'ouest de Montréal. Ce n'est pas unique. On a fait la même chose au Saguenay avec la compagnie de l'abbé Dubuisson jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Montréal, si on fait abstraction du peuplement de la vallée laurentienne, c'est qu'on pouvait remonter jusqu'au Grand Lac, soit par les portages, soit en allant par l'Outaouais, puis en redescendant par des cours d'eau secondaires ici. Et de la tête du lac supérieur, on pouvait rejoindre les sources du Mississippi, qui, lui, descendait jusqu'à la Louisiane actuelle, avec des affluents importants, entre autres le Missouri, qui allait loin dans l'Ouest canadien. Alors, lorsqu'on pense à Montréal, Dans sa fonction commerciale, c'est que la ville acquiert une fonction commerciale rapidement au début. C'est que, finalement, elle est au cœur d'un réseau d'échanges très étendu qui s'étend à l'échelle de l'Amérique du Nord dans le cadre de la pratique du commerce des fourrures. On y voyait aussi des préoccupations religieuses, surtout à l'époque de la fondation, parce que vous savez que Montréal a été fondée par une société qui était avant tout une société vouée à la conversion des sauvages, comme on disait à l'époque. C'était facile, par les cours d'eau, de rejoindre les communautés amérindiennes ou les tribus amérindiennes. Et c'était aussi facile de les contacter par le fait qu'elles venaient régulièrement à Montréal. Alors, il y a un ensemble de préoccupations. Certaines sont plus, ont tenu le cap assez longtemps, comme le commerce des fourrures, parce que même après la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques, ce commerce des fourrures-là a continué à se pratiquer jusqu'au 19e siècle. Mais lorsqu'on dit que c'est un choix avantageux, ici vous avez une carte qui montre simplement le peuplement de la vallée Laurentienne jusqu'à 1762. Vous voyez ici, vous avez le Montréal. Ici, la vallée du Richelieu, c'est qu'on avait commencé à peupler, mais avec plus ou moins de succès. Et ici, un peu une partie de la vallée de la Chaudière. Ici, c'est peut-être moins vrai, mais dans le cas ici, le peuplement du Richelieu a une fonction défensive également. C'est qu'on voulait occuper le territoire. Les Français, les Amérindiens comme les Français plus tard, ont vu un site privilégié à Montréal parce qu'il permettait de communiquer presque à la grandeur du continent. Ça ouvrait les portes à Montréal, mais ça donnait aussi accès à Montréal. Alors, le site envié était l'objet rapidement de rivalités et de guerres. Lorsque le jésuite Vimont, en 1642, dit que Montréal est bien loin des canons, avec toute la forêt qui l'entoure, c'est peut-être vrai à l'époque de la fondation de Montréal, mais un siècle et un siècle et demi plus tard, ce n'est plus nécessairement vrai. D'ailleurs, c'est toute la stratégie militaire des Français est assez intéressante pour protéger Montréal, entre autres, et son commerce des fourrures. C'est qu'on peut comprendre que, puis dans ce sens-là, Vimont a raison lorsqu'il dit qu'on est bien loin des canons, c'est qu'on est au cœur du continent, alors on est bien loin des flottes ennemies qui pouvaient remonter le Saint-Laurent. Et d'ailleurs, les Français avaient compris l'importance de, pas tellement de protéger Montréal comme tel, mais d'en protéger l'accès. Ils l'ont fait avec une série de forts qui s'étendent sur la vallée du Richelieu, vers le lac Champlain, et d'autres qui s'étendaient dans la région des Grands Lacs aussi. Ils l'ont fait également avec la construction en bloquant ou en gardant littéralement le fleuve par les forteresses, la forteresse de Louisbourg en Acadie et aussi la ville de Québec. Parce qu'on pouvait bien remonter le fleuve ou prendre Montréal, mais c'était un peu aléatoire si on ne contrôlait pas les postes défensifs qui possédaient l'accès ou qui protégeaient l'accès à Montréal. La guerre de la conquête, d'ailleurs, est un bon exemple. Les Anglais ont commencé par se défaire de Louisbourg. Et une fois qu'ils ont eu pris la ville de Québec, bon, ben, ça en était fait de colonies. Et lorsque, en 1775-76, les Américains avec Arnold et Montgomery attaque Montréal et Québec. L'objectif, c'est de contrôler ou prendre possession de Montréal, mais c'est de prendre possession aussi de Québec. Ça a fonctionné dans le cas de Québec, dans le cas de Montréal, ça n'a pas fonctionné dans le cas de Québec. Et le printemps suivant, la flotte anglaise est arrivée, ont débarqué à Québec et les Américains ont évacué au plus vite parce qu'ils ne contrôlaient pas l'accès, finalement. Ils ne contrôlaient pas le Saint-Laurent, simplement. Bon. Ce qui est, on a parlé au début aussi du canal de la Chine, pas du canal de la Chine, mais des rapides plutôt. C'est assez intéressant parce que ça va être déterminant dans l'histoire de Montréal. Rapidement, on a pensé à faire des canaux pour contourner l'obstacle des rapides. Les Sulpiciens des années 1680 ont un projet de canal. Il y en a un autre dans les années 1720-1730, approximativement. Et finalement, c'est en 1825 que le canal ouvre. Ça a repris pour des raisons qui relèvent autant de facteurs techniques que de coûts énormes à l'époque. Mais assez rapidement, on a utilisé l'énergie de l'eau. Si les Sulpiciens pensaient à des moulins, avec la révolution industrielle, l'énergie hydraulique a été un facteur de développement. Montréal, d'ailleurs, est le point où la zone de la Chine est le point où le démarrage de l'industrialisation au Canada. Simplement parce qu'on a rapidement utilisé le potentiel hydraulique du canal. Et si on utilise le potentiel hydraulique du canal, il faut bien comprendre que les usines se développent sur les lieux mêmes parce qu'on ne peut pas transporter l'énergie hydraulique produite. On mettra d'ailleurs plus tard à profit encore ces canaux-là avec, entre autres, le barrage à Beauharnois. Okay. C'est que Montréal devient à ce moment-là, bon, on l'a vu tantôt, il était au cœur d'un réseau commercial, finalement, mais avec le canal de la Chine, ça consolide, si vous voulez, la position de Montréal comme lieu de commerce. Je dirais aussi que le fait que cette position-là est déjà consolidée au milieu du 19e siècle, que Montréal est quand même situé comme lieu d'échange, ça a favorisé rapidement la construction de chemins de fer. D'autant plus qu'on est dans une région de plaine, où c'est plus facile. Et une fois l'obstacle du fleuve franchi avec le pont Victoria, on parvient déjà au début des années 1850 à relier Montréal à un port libre de glace à l'année, c'est-à-dire à Portland au Maine. On peut dire que aussi, c'est que bon, ces facteurs favorables-là, bon, vous avez ici une autre carte qui montrait les forts. Là. Okay. On peut dire aussi que la mise en place d'un réseau de transport, le développement industriel a aussi consolidé rapidement la position de Montréal à l'échelle continentale comme zone portuaire. Et à la fin du 19e siècle, Montréal est considéré comme le deuxième port après celui de New York à l'échelle du continent. C'est particulièrement intéressant, c'est que on a une série d'événements ou d'actions auxquelles la ville ou le milieu s'adapte progressivement, qui fait qu'à différentes étapes, on en arrive à consolider ou à améliorer ses positions et à les conserver. D'ailleurs, même à l'époque du canal, la construction du canal de la Chine, au début du 19e siècle, c'est une époque où on construit des canaux également aux États-Unis. Et l'enjeu de tout cela, c'est le contrôle du commerce, qui venait en particulier avec le développement de l'Ouest. Alors, on voulait soit contrôler le commerce par le port ou par Montréal. Les Américains voulaient faire de même avec leur port atlantique. Enfin, je terminerai simplement en quelques mots en vous disant que l'État français avait mis en place une structure administrative avec ce qu'on pourrait appeler des gouvernements régionaux. Il y en avait 5 en Nouvelle-France. Beaucoup croient qu'il y en avait trop, mais ça, c'est autre chose. Il y en avait un à Acadie, un à Québec, un à Trois-Rivières, un à Montréal et un en Louisiane. Vous avez une carte ici qui montre le territoire que couvrait le gouvernement de Montréal au 17e siècle. C'est peut-être la région métropolitaine un peu élargie ou qui correspond, je ne sais pas exactement à quoi aujourd'hui, mais c'est assez près, disons. Ce sont des gouvernements qui représentaient, en fin de compte, le gouverneur et l'intendant sur les plans militaires et civils. Il y avait une certaine autorité, mais évidemment, l'autorité dépendait de l'intendant et du gouverneur. La formule a été reprise avec des modifications par les Anglais, qui trouvaient finalement, somme toute, pas mal. Sauf qu'on a supprimé le gouvernement de Trois-Rivières, dont on ne savait pas trop à quoi ça servait. Mais il faut dire que à l'époque du régime français, la colonie était en pratique suradministrée. Il y avait tellement de monde pour administrer, finalement, si peu de gens que ça étonne par rapport à nos critères actuels. Voilà, j'ai voulu simplement dresser un bref tableau, de voir vous montrer ou vous indiquer des éléments qui montrent un peu la place de Montréal à l'intérieur du continent, puis le rôle que cette ville-là a pu jouer au fil des époques. Merci.
Alors, merci, Normand. Simplement pour indiquer qu'on réservera la période des questions après les deux présentations. Alors, j'inviterai Danny Fougère, qui est coordonnateur du projet d'histoire sur Montréal, tel qu'on l'a dit précédemment, mais qui est aussi un chercheur. Et qui nous présente les fruits de sa recherche, le territoire montréalais avant 1930. Il couvre la période 1796-1930 et il a trouvé un très beau sous-titre, La conquête du territoire.
La conquête du Nil.
Du Nil, la conquête du Nil. Ah voilà, excusez-moi.
Pas de quoi. Merci. Réflexion sur le territoire montréalais. J'en profite pour faire une petite publicité. Dans un mois, il va y avoir réflexion sur la société montréalaise avec d'autres auteurs. Donc, c'est des dîners que nous ferons pendant 2 ans jusqu'au moment où on va publier cet ouvrage. Donc, réflexion sur le territoire montréalais avant 1930. Réflexion sur le territoire, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux qu'on retrouve à l'époque? C'est les questions entourant administrer un territoire et ses parties, parce qu'éventuellement, on va voir qu'il y a une multiplication de communautés locales et d'institutions locales. Pardon. Autre enjeu, favoriser et accroître les liens intraterritoriaux, on pourrait même dire intra-insulaires. Et enfin, le dernier enjeu important à l'époque, quand on pense à dynamique territoriale, c'est favoriser et accroître les liens avec l'extérieur lointain et l'extérieur tout près aussi, c'est-à-dire l'île Jésus, Terrebonne, donc ce qu'on voit autour des populations qui seraient intéressées à venir à Montréal. Tout à l'heure, Normand nous a fait un tour d'horizon. On est parti de très loin pour voir le continent jusqu'à Montréal. Maintenant, moi, je vous convie à atterrir sur l'île. Et donc, pour parler que le territoire montréalais avant 1930, c'est vraiment une question qui entoure la conquête du Nil. Qu'est-ce que la région montréalaise? Je fais un petit aparté. Qu'est-ce que la région montréalaise et qu'est-ce que le 19e siècle montréalais? Quand on parle de la région de la Gaspésie, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est assez facile à définir qu'est-ce que la Gaspésie. On a une convention, on sait que c'est dans un endroit quelconque, la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Abitibi. Mais qu'est-ce que la région montréalaise? Est-ce que c'est seulement l'île? Est-ce que ça tient compte de l'île Jésus? Est-ce qu'on se rend jusqu'à Saint-Hyacinthe? Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pris pour approche de dire que l'île, la région montréalaise, c'est d'abord une région qui est variable avec le temps. Et on s'inspire de l'approche qui est développée par Statistique Canada, qui aujourd'hui dit aux gens de Saint-Jérôme qui font partie de l'île de Montréal, qui font partie, pardon, de la région métropolitaine de Montréal. C'est-à-dire un concept qu'on dit de navettage. Quand il y a plus de la moitié d'une population qui se déplace vers le centre-ville, on dit qu'ils appartiennent à la région métropolitaine. Donc, au 19e siècle, franchir l'île, c'est une ambition qui est démesurée dans la mesure où ça peut prendre plusieurs journées. Par contre, quitter la ville de Montréal et se rendre jusqu'à la rivière des Prairies, c'est une bonne promenade qui peut durer 4-5 heures. Partir du centre-ville et aller à Pointe-aux-Trembles, c'est une promenade qui peut prendre 7 à 8 heures dans une journée. Aller à Sainte-Geneviève, rendu au soir, on n'est pas encore tout à fait rendu en 1840, et là, il faut trouver un traversier en plus. Donc, vous voyez, au 19e siècle, la région montréalaise, c'est vraiment une région qui est insulaire. Maintenant, pourquoi le 19e siècle montréalais ne commence pas en 1800 et ne termine pas en 1899? Le 19e siècle montréalais commence en 1796 et se termine en 1930. Donc, que dire d'un siècle aussi long? Encore là, on a fait le pari du territoire. 1796, c'est quoi? C'est la mise en place de la loi des chemins au Bas-Canada. Et c'est à ce moment-là qu'on va cartographier le territoire bas-canadien et qu'on va mettre aussi en place des administrateurs locaux. Dans la ville, on retrouve des juges de paix et alors on retrouve des grands voyers, des sous-voyers, donc des administrateurs territoriaux. Et pourquoi 1930 plutôt que 1900? On a encore fait une périodisation qui s'intéresse au territoire plutôt qu'aux politiques uniquement, comme on va faire souvent. 1930, symboliquement, c'est l'ouverture du pont Jacques-Cartier. Et à ce moment-là, grâce aux voitures, le territoire éclate et là, maintenant, on peut se rendre encore plus loin. Voitures et moyens de franchir le fleuve Saint-Laurent. Et en plus, ça donne assez bien aussi pour nous en tant qu'historiens. 1930, c'est aussi la crise, donc il y a un changement aussi, c'est aussi un changement au niveau de l'économie montréalaise. Il y a toute une période, il y a une jonction il y a comme un point de rupture autour des années 1930. Donc la région montréalaise, le 19e siècle, c'est de 1796 à 1930. Donc je vous disais qu'il y a trois éléments importants dans notre histoire. Ah aussi, je ne fais que des parenthèses, je ne sais pas, je vais arrêter, m'arrange jusqu'à la fin. Histoire de la région montréalaise, qu'est-ce que c'est? Quand on a commencé le projet, souvent les gens nous disaient « Ah, il y a eu beaucoup de choses sur l'histoire de la région montréalaise, donc ça va être assez facile à écrire, ça ne sera pas très long. » En fait, si on regarde dans nos cahiers, dans les bibliographies, à la bibliothèque ici, on va constater que c'est souvent l'histoire de la ville de Montréal, du vieux Montréal, du pourtour du fleuve Saint-Laurent. Mais qu'est-ce qui est de l'histoire de l'ensemble de l'île, les différentes paroisses qu'on y retrouve, Pointe-Claire, Pointe-aux-Trembles, et ainsi de suite, on s'aperçoit que c'est très pauvre en tant qu'analyse historique. On manque de documentation. Donc, notre histoire régionale, même si souvent on est les premiers à dire on fait l'histoire de Montréal, on s'aperçoit aussi qu'on le prononce mal, c'est qu'on fait l'histoire de la région Montréal. Donc, on a l'ambition de regarder non seulement l'histoire de la ville, mais l'histoire de cette île-là qui se développe pendant des origines à aujourd'hui. Donc, un des enjeux dans cette conquête de l'île au 19e siècle, c'est administrer le territoire. Qu'est-ce qu'on constate au tournant du 19e siècle? C'est le développement d'une trame urbaine insulaire. Je vous disais tout à l'heure, la loi des chemins est adoptée, 1796, on met en place des administrateurs. La ville de Montréal a ses juges de paix qui sont nommés, qui doivent gérer la ville. Et sinon, on met en place l'office de grand voyer, qui est un peu un grand surintendant des travaux publics, si on peut dire, qui lui doit veiller à ce que les moyens de transport, les ponceaux, les ponts, ainsi de suite, entre les différentes communautés, puissent être entretenus et être... ou bien construit. Avec ça, pas de fonction publique, qu'est-ce qu'on demande? Les corvées. Okay? Donc, les gens doivent régulièrement participer aux corvées pour l'entretien des chemins, la construction, accepter qu'on passe sur leur terrain. Donc, on veut mettre en place un réseau. On s'aperçoit qu'on a des problèmes assez importants avec ce régime, beaucoup de frustration, compétition entre les différentes communautés. Les gens ne veulent pas faire les corvées. Donc, il y a vraiment une suite ininterrompue de critiques face au régime. Et en même temps, en 1840, à la suite des rébellions, il y a un certain M. Durham qui propose aussi la création des municipalités. Donc, 1796 à 1840, on voit en place un régime qui n'est pas démocratique, qu'on nomme des gens pour administrer le territoire. Et à partir de 1840, se mettent en place graduellement des municipalités. Donc, un pouvoir ou un désir qui vient d'en haut, on veut faire un ménage sur le territoire, on veut qu'il soit administré, parce qu'il n'est pas normal que ce soit le roi ou son représentant, le gouverneur, qui décide si on peut ou non ouvrir un chemin à côté du terrain de M. Godreau, mais plutôt que ce soit la communauté elle-même qui le fasse. Donc, on met en place des municipalités, et rapidement, c'est même aussi la demande des gens sur l'île elle-même. Il y a des gens qui désirent avoir leur propre municipalité. Un des enjeux importants, c'est la différence entre les communautés ou les administrations, les municipalités locales et les municipalités de paroisse. Hein? Quand on voit un village, les gens veulent un trottoir. Quand on est dans une campagne, les gens ne veulent pas de services municipaux. Donc, il y a des enjeux importants. Et le 19e siècle, c'est vraiment toute la question entourant l'administration du territoire. Je vous montre ici, on est en 1825 avec M. Viger, qui nous a fait un recensement. Donc, on voit ici, on a environ 40 000 personnes sur l'île de Montréal en 1825. Et vous voyez, à part quelques endroits, il y a toujours un village et la campagne qui, en fait, on va voir plus tard sur une autre carte, la campagne, c'est quoi? C'est des gens qui se retrouvent sur les côtes qu'on appelle dans d'autres régions du Québec, en fait, des rangs. Alors, on retrouve des cultivateurs qui vont habiter différentes côtes sur l'île de Montréal. Et vous voyez, à Montréal, il y a la ville en 1825 qui est de près de 26 000. Il y a deux villages, Tannerie-des-Bel-Air et Saint-Henri, plus la campagne qui se retrouve tout autour. Donc, vous voyez, selon les codes de couleur, les différentes paroisses qu'on retrouve. Pourquoi je prends les paroisses, c'est aussi important, parce que les administrateurs coloniaux à l'époque prennent le pari que ça va être l'unité territoriale de gestion. C'est-à-dire qu'on nomme des sous-voyers en fonction des différentes paroisses, et on nomme les voyers aussi en fonction des différentes paroisses et les commissaires. Donc, tout est orienté et orchestré autour de cette unité territoriale. Donc, oui, paroisses religieuses, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment des paroisses civiles, dans le sens d'administration de la chose civile. Et c'est inspiré aussi du régime anglais. Beaucoup, en Angleterre, d'administration va aussi se faire selon les paroisses qu'on retrouve, sauf que là-bas, ça va être des paroisses protestantes. Ici, on a les mêmes paroisses, mais vous voyez, en trois années, 1825, 71 et 1931, 100 ans avant, on avait 40 000 personnes sur le territoire. Maintenant, on est rendu avec 1 500 000 environ, okay, en l'espace de 100 ans. Vous voyez, Montréal est rendu avec 940 000 habitants. Vous voyez qu'il y a différentes... Je vais prendre cette petite chose... Ça fonctionne pas vraiment. OK. Donc, Montréal, 940 000 habitants, et il y a un petit astérix ici. C'est qu'en fait, à partir de ce moment, il y a des municipalités qui sont créées ou annexées, puis ça, vous allez le voir dans le bouquin, on parle de fusion municipale, diffusion municipale, des choses qui sont encore très d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est des populations qu'on va aller prendre, à titre d'exemple, à Longue-Pointe, qui va maintenant être intégré à la ville de Montréal. Les populations de la paroisse de Saint-Laurent qui vont être annexées à des populations de la paroisse de Sault-et-Récollet. Donc, vous voyez, il y a des changements au niveau des populations selon les paroisses, mais la somme globale de l'île nous montre qu'il y a 1 500 000 personnes en 1931, à la fin de notre période. Je vais passer rapidement à lui pour vous montrer l'autre ici. Qu'est-ce que c'est? Quand je vous disais, en 1840, on dit qu'il faut créer des municipalités, il n'est pas question que le gouvernement, que le roi s'occupe des disputes de clôture. Rapidement, les communautés elles-mêmes veulent se créer des municipalités. Les gens demandent d'avoir leur propre municipalité. Et les points que vous voyez un peu partout, c'est la création des municipalités. Donc, vous voyez ici, à toutes les fois qu'il y a un point, ça veut dire qu'il y a une municipalité qui a été créée. En haut, les chiffres, c'est les paroisses, donc la paroisse de Longue-Pointe, Pointe-Rivière-des-Prairies, ainsi de suite. Ce qu'on voit, c'est que dans la paroisse de Montréal, c'est pas surprenant, c'est là qu'il y a plus de monde. Il y a beaucoup de municipalités qui sont créées dans les années 1870-80, qui vont tout être pour plusieurs annexées à Montréal. Et dans les autres paroisses, c'est autour de 1890 à 1910 qu'il y a plusieurs municipalités qui sont créées, qui elles aussi vont être pour plusieurs annexées à Montréal ou vont avoir fusionné dans différentes villes. Donc, c'est une demande d'en haut, mais aussi une demande d'en bas. Deuxième élément important, je vais rapidement, parce que j'ai plein de photographies, j'en profite grâce à la grande bibliothèque et la numérisation, je vais pouvoir vous montrer plein d'illustrations d'époque. Deuxième élément important dans cette conquête de l'île, c'est favoriser les liens et accroître les déplacements. Comme je vous disais, en 1840, et c'est assez intéressant parce que les commentateurs de l'époque disent que tout va bien, à partir de l'hôtel de ville, de rue Notre-Dame, se rendre à Pointe-aux-Trembles, ça prend 8 heures. Et comme je vous disais, rendu là-bas, il faut se trouver un traversier pour aller soit à Repentigny, soit à l'Assomption. Donc, vous voyez, c'est quand même une période assez longue. Donc, des déplacements intra-paroissiaux, hein, je prends le terme paroissiaux de sa dimension plus civile. Donc, on veut essayer de se déplacer entre, à l'intérieur même de la paroisse. Comme je vous disais tout à l'heure, on va voir bientôt, dans une autre carte, les côtes et les chemins qu'on retrouve sur l'île. Rapidement, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me disais, ah, une paroisse, une unité de communauté. En fait, il y a le village, puis les gens qui habitent telle côte ne sont pas nécessairement amis ou enclins à partager tout ce qu'ils ont avec des gens de l'autre côte. Donc, un exemple, les gens de la côte Saint-Laurent vont peut-être lutter contre les gens de la côte Saint-Michel, ou là, je vous dis des noms, mais dans leur paroisse pour avoir l'église dans leur coin ou d'avoir des travaux devant leur maison. Vous voyez, donc, c'est des sous-unités territoriaux, des sous-unités de communautés à l'époque qu'on retrouve dans chacune des paroisses. Ceci étant dit, on veut améliorer les conditions de transport. Comment? En se disputant sur la question des corvées, en demandant aussi au gouvernement de nous donner des sous pour améliorer les conditions de transport. C'est aussi une demande qui est effectivement des insulaires. Les gens de la paroisse ou du village de Saint-Laurent veulent aller dans la ville-centre, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est là qu'il y a le port et c'est là qu'il y a les marchés. Les gens veulent vraiment, et on retrouve énormément de documentation que les gens veulent aller au marché, veulent se rendre à la ville, vendre leurs produits. Et parmi les plus grands défenseurs de l'amélioration des conditions de transport sur l'île, on retrouve qui? Les gens qui viennent de l'île Jésus, de Terrebonne, donc tous les gens qui sont au pourtour de l'île de Montréal, qui veulent venir eux aussi, venir dans la ville. Et tout ça, comme c'est écrit, pour se rendre à la grande ville, pour aller faire du commerce, pour aller faire des échanges. Donc ici, vous voyez les côtes en 1825. Okay, donc, dans chacune des paroisses, Côte de Liesse, Côte de Vertu. Et ça, en 1825, il y a environ comme 25-26 côtes, dont chacune peut avoir de 5, 10 ou 200 individus qui se répartissent le long des côtes. Ce qu'on doit retenir ici, c'est... je cherche encore mon petit faisceau lumineux. OK, ici, voilà. Regardez ici, on veut monter ici pour traverser éventuellement dans ce qui va être le pont de la Chapelle, et on veut se rendre aussi vers ici pour aller à Québec. Ici, intervention sur le réseau de chemin montréalais, subvention gouvernementale avant 1840. Ce qu'on retrouve ici, c'est bon an, mal an, des demandes de subvention, des sous qui sont injectés par le gouvernement colonial pour améliorer ces chemins. Et on voit quoi? Le chemin qui nous amène ici de Québec pour se rendre jusqu'au canal de la Chine et le chemin pour se rendre vers le nord de l'île. Ce qui est assez fascinant, c'est que si vous regardez encore en 2006-2009, vous allez voir que les interventions, les réseaux de transport ressemblent un peu encore à ce qu'on retrouvait quelques 150 ans plus tôt. 1930, bon, le damier de rue est beaucoup plus dense qu'avant, là, ce qu'on ne voit pas ici. Mais par contre, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré les conditions pour, encore une fois, traverser l'île ou aller vers l'est. C'est essentiellement les grandes routes qu'on a fait pendant cette période. Enjeu d'actualité, mais enjeu qui l'était aussi à l'époque, quand je vous dis qu'on veut avoir des administrateurs locaux, on dit qu'il n'est pas question que le roi se mêle de ses disputes de clôture. On se plaint des corvées, que les gens, il y a toujours le voisin qui n'a pas fait son bout alors que moi j'ai fait le mien. Apparaît l'idée des chemins à barrière, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les péages. Et ça, c'est une compagnie qui est créée en 1840 qui enrouche tous les différents chemins pour rentrer dans la ville de Montréal. Donc, c'est pas la paroisse, c'est la ville, et on doit payer pour arriver à la ville. Et en bleu, c'est la barrière Papineau et Saint-Michel qui apparaissent plus tard dans le... qui est récupérée par la compagnie des chemins à barrière. Donc, vous regardez ici, tout autour de la ville, ça, ici, c'est les limites de la ville de Montréal. Autour, c'est sa paroisse. Puis, tout autour, bon, c'est les autres paroisses de Montréal. Donc, c'est en 1840, voici ce qu'on doit passer. On n'a pas le choix de passer par ici et payer pour rentrer dans la ville en se disant que les sous qui sont investis là-dedans servent, en principe, pour l'amélioration des chemins. Rapidement, ici, regardez les progrès du 1918 pour aller à Beaconsfield, la route du Tour de l'île en 1930 à Sainte-Geneviève. Ici, sur l'île de Montréal, c'est 1942, on commence à avoir du béton et on va aller vite, on va aller loin, et donc c'est double chaussée. Ça, c'est la côte de Liesse en 1942. Maintenant, l'autre enjeu, c'est comme si une fois qu'on est sur l'île, qu'on considère que c'est l'endroit le plus important pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On veut y repartir d'aussitôt. Donc, un des enjeux importants de Montréal, c'est sa force comme sa faiblesse, c'est le fait d'être insulaire. Insulaire oblige les gens à atterrir chez nous, si on peut prendre l'expression, ou accoster chez nous. Mais le fait d'être insulaire, il faut trouver la façon de sortir ou de quitter l'île aussi. Donc, le problème d'accéder à l'île va apparaître, toute la question des traverses et des ponts. Et ensuite, on veut aussi mettre en lien l'île pour pouvoir avoir son interland, comme on va appeler dans le jargon urbaniste, donc son arrière-pays, mais aussi lier l'île pour par la suite se mettre en lien avec le continent, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Normand. Donc ici, rapidement, ce sont les traverses qu'on a recensées. Je sais qu'il en manque deux ici encore. Donc les traverses, et c'est fascinant aux archives, allez voir, il y a un nombre incalculable de gens qui demandent des permis pour être traversiers pendant le tout 19e siècle. Donc, chaque ligne bleue ici, ce sont des traverses souvent à vapeur, à partir dès les années 1815-1820, pour aller à un endroit ou l'autre autour de Montréal. Une traverse en 1805 entre Longueuil et Montréal. La traverse Montréal-Longueuil en 1910-1915. On a déjà les ponts, on est dans les années, fin des années 30, une traverse pour aller à l'île Bizarre, traverse pour aller à Kanawake, Montréal-Nord. Donc, vous voyez, présentement, on a déjà des ponts par ailleurs, mais il n'y en a pas partout autour de l'île, donc les traverses demeurent. Ici, un quai, le quai de Pointe-aux-Trembles, et va graduellement apparaître les ponts, les premiers de 1836, le pont La Chapelle, le pont Viau en 1947, et ça va être, on va voir tout à l'heure, l'âge des chemins de fer, donc les ponts routiers et les ponts routiers apparaissent timidement au 19e siècle, les ponts de chemin de fer apparaissent, eux, de manière plus importante à partir de ce moment. On voit de 25 à 39, pont Jacques-Cartier, pont Mercier, pont Victoria, il y était déjà, le pont Le Gardeur, ainsi de suite. Donc, les ponts. Maintenant, Montréal est rendu, dans les années 30, une île qui est en lien avec son territoire immédiat. Ici, je vous ai trouvé un croquis d'un plan du pont Jacques-Cartier, mais ce n'est pas le pont Jacques-Cartier, mais en 1896, une proposition de à quoi pourrait ressembler le pont qui allait traverser Montréal à Longueuil. Construction du pont Jacques-Cartier. Ici, symboliquement, le R100, le pont et un paquebot, donc c'est quand même une image assez forte. Voilà. Enfin, un des enjeux importants, c'était, Normand l'a montré tout à l'heure, on veut aller vers le sud. Une fois qu'on quitte l'île, on veut se rendre plus loin dans notre réseau nord-américain. Les canaux de chemin de fer qui sont développés, qui sont développés jusqu'à Ottawa et on descend jusqu'à Kingston pour avoir accès au Canada, au Canada, Toronto, dans les années 1830, fin des années 20, 1830, selon les partis. Fin des années 1840, on fait le canal du Saint-Laurent. Et en même temps, on a fait ici Chambly, fin des années 40 aussi. Tout ça pour soit aller vers un marché américain, soit aller pour l'arrière-pays canadien, qui se trouve à être l'arrière-pays pour Montréal à l'époque. Et entre les deux, on a un petit chemin de fer qui va être ici. Donc, pour sortir de Montréal, il y avait plein de projets. Hein. À l'époque, on retrouve dans les années 1840 deux autres projets de faire des canaux qui allaient se rendre directement au lac Champlain. Mais ils ne feront pas le poids, si on peut dire, en compétition avec cette nouvelle technologie qui sont les chemins de fer. Donc, le premier groupe de chemins de fer dans les années 40, multiplication de chemins de fer dans les années 70-80. Hein? Et là, on va à Portland en 1853, on sera à Portland, Roses Point 51, Plattsburgh 52, donc vous voyez, on sera à Toronto en 60 en train. On arrive, consolidation des grandes compagnies de chemin de fer dans les années 30. En fait, il reste pratiquement seulement Canadien National et Canadien Pacifique. Et je terminerai sur, rapidement, les routes. On a aussi ambition de se déplacer par la voie routière. Donc, ici, ce sont les premiers, en 1814, les premières routes qu'on emprunte pour aller soit vers le Haut-Canada, soit vers les États-Unis. 1915, les routes qu'on dit pavées, qui sont payées par le gouvernement du Québec. Vous voyez, il y a seulement ici vers Québec, Chambly, les États-Unis et un petit bout entre Sherbrooke et les États-Unis. 1930, on a déjà un réseau qui est beaucoup plus développé parce qu'on croit justement à l'importance de la voiture. Donc, on retrouve dans tous les documents d'époque l'importance de s'ouvrir pour les voitures. Et je termine avec quelques photos. Vous voyez, 1918, ça, on se rend à Québec vers Contrecœur, les Laurentides, Sainte-Thérèse. Sherbrooke, c'est une route de terre, ce qui va très mal, les gens se plaignent. Sinon, pavé, c'est soit macadam ou un peu de béton. Ici, dans le bout de près de Trois-Rivières. Et ici, la jonction vers les États-Unis à La Prairie. Les années 40, on se dit qu'il faut maintenant faire des autoroutes, pavés, ainsi de suite. Donc, Montréal, à partir de ce moment, rentre vraiment sur un réseau qui va être encore plus nord-américain, mais davantage axé ou au profit de la voiture. Voilà.
Alors, merci, Dany. Je crois qu'on peut recevoir, accueillir des questions, des commentaires sur ces deux présentations qui soulevaient deux grandes visions territoriales. Hein, une première qui est continentale et qui s'appuie sur l'exceptionnalité d'un site, celui de Montréal, et la seconde sur la construction d'un territoire à la fois intérieur, l'île, mais également, je dirais, sur la création d'un système urbain développé autour d'une ville centre, d'une ville primatiale. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, madame, peut-être vous avancez au micro et si vous le souhaitez, vous nommer.
Bonjour, Louise Marchand. J'enseigne la géographie au Collège Édouard Montpetit. Semaine de relâche. J'ai pu venir vous voir. Il y avait une photo qui a attiré mon attention. Côte de Liesse, 1942, en béton. On voit une maison de campagne. Je voulais savoir si c'était relié à l'aéroport de Dorval, je pense, qui est dans ces années-là, quelque chose comme ça. Pourquoi on construit en béton, en 1942, à la Côte de Liesse? C'est un peu ma question.
En fait, les sources, ça, c'est tiré du rapport, des rapports annuels du ministère de la voirie, comme on l'appelait à l'époque. Et à ce moment-là, c'est surtout une période de guerre. Et il y a un discours qui est d'abord la défense, comme on veut faire aussi ce qu'on va appeler la, qui est anciennement la route 9, qui va devenir la route, en tout cas ce qu'on veut, qui s'appelle l'autoroute Sir Wilfrid Laurier vers les États-Unis. On va faire des routes en béton, double voie, pour la question de la défense nationale. Donc ça, c'est un discours qui est très présent. Et l'autre, curieusement, dans les rapports annuels, parce qu'on en retrouve plusieurs années, il y a un discours sur le tourisme. J'ai été assez surpris, je pensais que ça apparaîtrait beaucoup plus tard. Où est-ce qu'on nous dit que quand la guerre sera terminée, grâce aux voitures, les gens vont vouloir se déplacer. Mais à aucun moment, il est fait mention de l'aéroport à ce moment-là, effectivement. Okay.
Parce que je suis toujours un peu étonnée, depuis quelques années, quand je vais à l'aéroport de Dorval, de voir la congestion monstre. Depuis qu'on a ramené Mirabel à Dorval, je me dis, en 1942, on prévoyait déjà une autoroute en béton. Était-ce relié à Dorval? Aujourd'hui, on est encore
Non, je ne pense pas qu'il pensait à Dorval
non,
à l'époque.
D'accord. Mais merci beaucoup.
Plaisir.
Oui. Si vous voulez venir au micro, monsieur.
Michel Bugeaud. Moi, ce qui m'intéresse de Montréal, c'est Montréal, c'est une île. C'était également un mont sur une île. Et je veux savoir si, anciennement, dans le développement de Montréal, on a déjà eu la conscience d'orienter les regards des Montréalais vers le Mont-Royal. Autrement dit, de ne pas boucher la vue des Montréalais dans le développement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà... Parce qu'aujourd'hui, si on se promène autour du Mont-Royal, on a des pans du mont, la vue est de plus en plus cachée. Je veux savoir s'il y a des gens à l'époque qui ont déjà eu cette préoccupation. Je parle entre autres de la route du canal de la Chine. Il y a des bouts où on ne voit plus du tout le Mont-Royal.
Ça s'est perdu, ou moi je dirais, en tout cas, il y a eu des gains et des pertes avec la colonisation du Saint-Laurent. Montréal était une ville, même si sa carte de visite est souvent sur des photographies comme, je ne sais pas si je peux en partir ça. C'est lui ici. Ici, on a le port. Puis ici, il y a la montagne en arrière. En fait, ce qu'on constate, ce que je constate quand je vais dans les archives, c'est d'abord une ville portuaire. Même si sa carte de visite, c'est la montagne en arrière, ce qu'on illustre dans les sources iconographiques, où l'importance économique, l'importance pour le futur, parce qu'on est vraiment conscient, on est promoteur pendant tout le 19e siècle qu'on a un grand destin devant nous, qu'on va devenir aussi gros, aussi important que les États-Unis. Et donc, il faut s'ouvrir vers l'extérieur. Il y a une ouverture, mais qui passe d'abord par les voies d'eau. Ce qui va se passer à la fin du siècle, du 19e, puis au tournant du 20e siècle, avec l'industrialisation du canal de la Chine qui va devenir de plus en plus importante, même si ça date du milieu du siècle, l'industrialisation va devenir de plus en plus importante, c'est qu'à un moment donné, on va cacher toutes les façades du fleuve. Je dirais que la voie maritime, quand on l'a fait en 1959, l'avantage, c'est qu'on a pu enlever plusieurs des conteneurs ou des différents bâtiments qui cachaient, quand on était dans le Vieux-Montréal, qui cachaient le fleuve. Mais c'est loin d'être gagné encore. Donc, ce que j'ai vu, c'est d'abord, c'est le cas de le dire, une vue vers le fleuve. Ça, c'est un sentiment qu'on constate. Et ce que j'ai retracé, pas nécessairement directement dans notre histoire. Moi, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur l'histoire de Montréal. La montagne, c'est quand on va l'aménager à la fin du 19e siècle, mais qui a une vision beaucoup plus idyllique ou un parc, mais pas construit comme un élément, en tout cas, c'est l'observation que j'ai, là, qui n'est pas construit comme un élément constitutif de la ville comme le port a pu l'être. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, c'est une carte de visite qu'on retrouvait au 19e dans les photographies, c'était la montagne. Mais dans les faits, en 1930, il y a un ouvrage assez intéressant, là, plus de 200 pages, c'est les ancêtres des sites Internet d'aujourd'hui, où est-ce que la ville défend sa ville, invite les promoteurs à venir faire un tour, puis là, on montre Chacune des pages, on vante les progrès de Montréal, qu'est-ce que Montréal a à offrir. Et c'est vraiment, à l'époque, le port de Montréal qui est avant tout présenté. Et je vous dirais, sans sarcasme, qu'il y a une page sur les Canadiens de Montréal puis une page sur la montagne. Mais sans vraiment plus que ça. Et comme aujourd'hui, si on retrouve des ventes, entre guillemets, là, si on retrouve une promotion de Montréal sur Internet, on va parler de la matière grise. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut vendre, comment qu'on ait des matières grises à Montréal, comment qu'il y a du savoir à Montréal. À l'époque, c'est comment on est capable de transiger, de se déplacer et d'être ouvert sur le continent.
Autre question ou commentaire? Peut-être, si je peux me permettre, une petite réflexion en attendant une prochaine question. Ce n'est qu'avec le premier plan d'urbanisme de la fin des années 80 que cette notion de vue et de perspective vers le Mont-Royal a été traitée de manière, soit réglementée. La deuxième chose que je voudrais dire sur cette perspective-là, j'avais organisé il y a très longtemps un colloque sur Montréal, et était venu le géographe français Paul Claval, qui avait présenté une espèce de rétrospective de l'histoire de Montréal, et la cohésion des différentes époques tenait par le double jeu de la perspective qui touchait la représentation de Montréal, qui était soit la vue du sommet vers le fleuve, avec la vue sur le centre-ville et le port, ou l'inverse, la vue des gens qui arrivent du port et qui regardent la montagne. Et cette image-là apparaissait, cette représentation apparaissait alors je cite quelqu'un, c'est pas mes recherches, apparaissait chez Jacques Cartier dans sa description, dans sa relation, et suivait jusqu'aux années 90. Donc cette double vue était une représentation forte de Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, est-ce que les Normands ou Dany voulaient ajouter un point? Alors, il va me rester, je pense, à remercier Normand Perron et Dany Fougère pour leur présentation. Vous remercier d'être venus. Ouais,
je vais tout de suite vendre la mèche. Dans un mois, il y a M. Robert Gagnon de l'UQAM et Mme Danielle Gauvreau de l'Université Concordia qui vont venir faire une présentation sur la population montréalaise au 19e siècle. Donc, vous serez sans doute les bienvenus. Excuse-moi.
C'était le début d'une belle série et merci d'être venu et bon après-midi à tous et à toutes. Merci.
Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que monsieur voulait savoir si c'était ici.
Je crois que oui.
C'est vrai?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a?
Quelqu'un vous a posé une question?
Non, je voulais savoir si c'était ici. Comment je fais?